Les grands événements du Collège de France.
Bonjour, merci d'être si nombreux. On espère ne pas vous décevoir. Moi qui ai fait la quatrième de transition, dans mon temps ça s'appelait comme ça, c'est les SECPA maintenant. Je suis quand même, mes parents qui sont là-haut, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout là ? En tout cas, moi, je me le demande. Mais je suis à côté de deux personnes qui me rassurent. Donc, go ! Moi, j'ai ma petite référence. Il faut rééteindre à chaque fois ?
Alors, en fait, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Donc, voilà, on a discuté un peu en amont. Éric Ruff, que vous connaissez, alors peut-être je vais me présenter quand même, parce que bon, Isabelle Nanty, que vous venez d'entendre, tout le monde la connaît. Donc moi je suis Antoine Lilti, je suis professeur ici au Collège de France, je suis spécialiste des Lumières et de leurs héritages, c'est-à-dire du XVIIIe siècle. Déjà joué au cinéma, on se demande ce que je fais là, mais bon. Moi, j'ai un peu travaillé sur... Alors, pourquoi je suis là ? Parce que j'ai travaillé sur la célébrité, et notamment la célébrité des acteurs au XVIIIe siècle, des comédiens et des comédiennes, qui sont les premières grandes figures publiques, les figures célèbres dans l'Europe du XVIIIe siècle. Bon, j'en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure. Et du coup, j'imagine que c'est pour ça que j'ai été convié à dialoguer avec... Deux grandes figures aujourd'hui du théâtre et du cinéma français. Éric Ruff, vous le connaissez bien, puisque il anime ce cycle de conférences toute l'année. Il est directeur de la Comédie française, donc acteur, metteur en scène au théâtre et acteur aussi au cinéma. Et puis Isabelle Nanty, évidemment, actrice, metteuse en scène, au théâtre, au cinéma, professeur de théâtre. Donc, voilà, de figure. Alors, pour moi, c'est évidemment très intimidant, parce que c'est une chose de travailler sur le théâtre au XVIIIe siècle, et puis de se retrouver à dialoguer. Alors, on a déjà eu un premier dialogue un peu en amont, en préparation, et ce qui a été... tout à fait intéressant, c'est les effets d'écho entre leur expérience, leur connaissance du monde aujourd'hui, du théâtre et du cinéma, et notamment des formes de notoriété des comédiens au théâtre et au cinéma, de leur manière de vivre cette notoriété, mais aussi du type de travail qu'est le travail des comédiens et des comédiennes. Et ce que moi, je peux observer et voir au XVIIIe siècle. Voilà, donc ça, c'est... pour me justifier d'être à cette table autrement qu'en tant que régional de l'étape. Mais je sais que vous êtes quand même d'abord venu pour écouter Éric Ruff et Isabelle Nanty parler de leur expérience et de ce que c'est que le travail de comédien et ce que c'est que de jouer au théâtre et au cinéma aujourd'hui. Donc peut-être je vous repasse le ballon.
On peut peut-être lier l'ensemble des sujets. C'est une question effectivement qu'on nous pose souvent. Est-ce que c'est différent de jouer au théâtre et au cinéma ? J'ai rarement entendu une réponse qui soit suffisamment simple ou générique pour résumer la chose. J'ai quelquefois l'impression que on se pose des fois la question d'actrice au théâtre, d'acteur au théâtre, dont on aime infiniment le travail et dont on se demande pourquoi est-ce qu'on ne les a pratiquement jamais vus, pourquoi une carrière de cinéma ne se fait pas, comme si il y avait quelquefois des surfaces sur lesquelles on court mieux que sur une autre surface. Et puis il y a l'inverse aussi, j'ai jamais réussi à comprendre cette chose-là, mais on peut le lier au phénomène de la renommée, de la reconnaissance. Moi, je travaille dans une maison, je me suis déjà un peu exprimé là-dessus, où nous avons des règles internes qui sont des règles qui sont loin des lois du marché, justement, où vous ne verrez jamais le nom de l'acteur qui a une reconnaissance au cinéma, qui aurait droit à un caractère gras ou à une position prédominante sur une affiche. Ça n'existe pas à la Comédie-Française. Et à cause de ça, se développe à la Comédie Française toujours une sorte de soupçon sur celles et ceux qui arrivent avec des carrières de cinéma ou qui font des carrières de cinéma, donc qui, d'une certaine manière, fourvoieraient cette règle, ne serait pas exactement dans la règle. Et j'ai souvent remarqué aussi que nous, les acteurs, le phénomène de la notoriété, ce pourquoi les gens nous reconnaissent, ce pourquoi les gens viennent nous parler ou non, n'a pas de critères absolument posés non plus. Vraiment, absolument pas. On le sait que c'est un métier un peu inéquitable. Isabelle et moi, on a plein d'amis dans les écoles, au conservatoire ou d'autres, qui étaient des gens qu'on trouvait absolument extraordinaires et qui n'ont pas trouvé moyen de faire carrière en ne sachant pas pourquoi. On a toujours des doutes aussi. Au cinéma, par exemple, on le sait, on tourne des films et qui, quelquefois, plus ils sont intéressants et moins ils sont distribués, quelquefois. Et donc, on a l'impression de travailler très profondément sur un film et puis de s'apercevoir qu'en fait il passe extrêmement rapidement et que personne ne l'a vu et quelquefois il nous arrive de faire, pas de l'alimentaire mais d'avoir un petit rôle mais dans une chose qui est extrêmement vue et dont tout le monde vous parle tout d'un coup. Donc le sentiment d'illégitimité quelquefois de celle ou celui qui est reconnu, on se dit mais pourquoi il est reconnu, c'est pas un si grand acteur que ça, etc. est partagé en interne aussi. Soi-même on n'arrive pas bien à comprendre pourquoi les gens nous reconnaissent, sur quoi ça se base, cette reconnaissance, pourquoi elle a ce type-là aussi. On en parlait au café, j'ai souvent aussi remarqué que les rôles que nous portons, les emplois que nous avons, qui sont quelquefois assez peu en rapport avec notre nature profonde, créent un rapport avec le public. J'imagine, Isabelle, qu'on te salue très cordialement et sans doute avec une gentillesse peut-être quelquefois invasive. Moi qui ai joué Richelieu et Pyrrhus, j'ai toujours droit à un préalable. Voilà. Est-ce que je peux vous parler? Voilà, je bénéficie, lorsqu'on me reconnaît, de beaucoup de respect ou de distance, et j'ai toujours l'impression que c'est un peu lié au rôle que j'ai joué, tout simplement.
On pourrait dire qu'en fait, en tout cas, de nos jours, notre patron absolu, c'est le public. C'est lui qui achète ses billets pour aller voir les pièces à la Comédie Française, selon les pièces, plus ou moins, ou tout le temps plein, depuis quelque temps, tout le temps plein. Donc ce public-là, c'est notre boss, c'est grâce à lui qu'on mange, c'est grâce à lui que les films sont maintenus dans les salles. Et moi, c'est une chose qui me rassure un tout petit peu. Parce qu'en fait, au départ, nous, quand on a commencé, enfin moi, j'ai commencé un peu avant Aigrir, car il est plus jeune que moi, mais je me souviens que pour parvenir à une place un peu reconnue, il fallait d'abord être reconnu de nos pairs, puis de la profession, et puis seulement après des gens qui donnaient l'argent pour que les projets se fassent, et puis ensuite en dernier le public quasiment. Alors aujourd'hui c'est carrément l'effet inverse, même si j'ai trouvé ça assez violent, je trouve que ça me rassure aussi, c'est-à-dire qu'en fait les jeunes aujourd'hui n'ont plus besoin d'être adoubés comme nous on avait besoin de l'être. Ils s'auto-adoubent ou ils s'adoubent entre eux par les réseaux sociaux. D'ailleurs, les mêmes qui vous mettent à votre place peuvent être ceux qui vont vous assassiner socialement peu de temps après. C'est la cruauté de... Enfin, tout est ambivalent. Moi qui suis très touchée par justement, en tout cas, le côté, cette idée d'égalité entre les êtres, la parité, mais aussi l'égalité, l'égalité des chances. Nous, on est quand même dans un métier où quelqu'un qui vient d'une campagne profonde peut du jour au lendemain faire un métier qui un jour peut-être va le porter à être connu. Alors moi je viens d'un village de 250 habitants, si j'y suis arrivée, et ce n'était pas mon but, mais si j'y suis arrivée, c'est que n'importe qui peut y arriver. Et en même temps, ce que j'ai aimé dans mon village, c'est que tout le monde est une vedette dans un village. Tout le monde est une personne, tout le monde a un vécu, n'importe qui, on apprend en tout cas dans les villages que n'importe qui a un parcours de vie qui n'est pas facile, et ça nous rend humbles face à tout statut social en fait. On est vraiment tous égaux sur ce terrain-là. Et moi qui suis très sensible à justement au siècle des Lumières, qui, en tout cas, sur le plan de l'homme et de la femme et des êtres humains, ont essayé de ramener l'idée d'égalité et ensuite de fraternité et donc de liberté au sein du débat, au sein de la machine sociale, enfin de la machine. Bon, ça n'a pas forcément très bien réussi, mais en tout cas, c'était possible. Donc, moi, quand j'ai commencé mon métier, je l'ai commencé comme dans mon village, avec la même innocence, avec le même enthousiasme, et je me fichais pas mal, et je m'en fiche un peu toujours, et je me suis aussi méfiée, étant très, très, en fait, assez au courant que à bas tous les privilèges ont été quand même aussi le début de ce siècle merveilleux des Lumières, j'ai fait très attention à ce que justement une position sociale ne devienne pas un état de privilège où tout devient faux, en fait tout est vu autrement. Donc c'est là où j'invite Antoine à faire le lien. Non, mais c'est vrai, parce que, bon, c'est le public, et ce public qui nous fait, qui fait les célébrités, enfin, la plupart du temps, celles qui sont reconnues par le public, parce qu'il y a d'autres célébrités. Moi, les célébrités que j'aime, c'est des gens que personne ne connaît, ou c'est des savants, ou c'est des gens qui font des choses, à mes yeux, vraiment utiles. Donc, en tout cas, ce monstre qu'est le public, qui crée la monstruosité de la célébrité, c'est lui qui le crée, c'est lui aussi qui le mange.
Oui, dans ce que vous disiez tous les deux, là, il y a deux points qui viennent de me frapper. Le premier, c'est la question de la reconnaissance. Vous avez tous les deux utilisé le terme, mais dans deux sens un peu différents, parce qu'il y a la reconnaissance au sens de l'estime portée par un milieu sur un talent. Donc il y a des acteurs qui sont reconnus, c'est-à-dire qu'ils sont reconnus comme de très bons acteurs, comme d'excellents acteurs. Et là, la reconnaissance, elle vient pas forcément que du public. Il y a la reconnaissance par les pairs, il y a la reconnaissance par les critiques, il y a la reconnaissance par les metteurs ou les metteuses en scène. Donc là, on voit bien qu'il y a des... Ça, la sociologie de la culture l'a bien montré, il y a des cercles de reconnaissance. Le public est un des éléments de reconnaissance. Et puis, il y a la reconnaissance au sens où, vous disiez, Eric, qu'on est reconnu dans la rue. Alors, des gens, donc non plus en situation d'acteur, mais là, on est reconnu parce que le visage, notamment, le visage, le nom, sont identifiés. Et là, c'est moins le talent de l'acteur, peut-être, que d'une part sa visibilité, sa notoriété donc dans l'espace public, et puis le fait qu'il doit identifier un rôle. Et donc là, c'était très intéressant, effectivement, l'idée que spontanément, peut-être, toute une partie du public, dans les dynamiques de la notoriété de la célébrité, vont vous identifier, vont vous associer à un rôle. Et ça, par exemple, au XVIIIe siècle, on voit que c'est déjà très souvent le cas. Les portraits d'acteurs ou d'actrices connus, souvent, les représentent dans le rôle qui les a rendus célèbres. Et un certain nombre, d'ailleurs, se plaignent que d'être attachés ou d'être associés trop fortement à un rôle, qui est le rôle en même temps qui leur a acquis cette notoriété, mais qui, du coup, leur colle à la peau. Et des fois, d'ailleurs, dans les portraits, en fait, c'est plutôt le personnage hein, qui est célèbre autant que l'acteur qui le porte. Et donc pour l'acteur, c'est à la fois une chance d'être attaché à ce rôle qui a fait sa célébrité, et en même temps, ça peut être à un moment un carcan. Et donc ça, j'aimerais bien vous entendre aussi sur ces effets potentiellement réducteurs de la notoriété dès lors qu'elle est attachée à certains rôles et à certaines images. Et puis, là, dans ce que disait Isabelle, ça, c'est une question très intéressante parce que cette question du rapport avec l'idéal d'égalité, les idéaux modernes des Lumières et de la Révolution, parce que la célébrité, au fond, justement, elle apparaît au XVIIIe siècle, au-delà du théâtre, hein, comme phénomène social et culturel. Le mot même prend son sens, hein, célébrité, au XVIIIe siècle. Et c'est un phénomène qui devient majeur dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, qui touche pas seulement des comédiens et des comédiennes, mais aussi des écrivains, des philosophes, des artistes, des musiciens. Et c'est très lié à un double phénomène. D'une part, la possibilité d'ascension sociale justement par la notoriété dans les milieux culturels, les milieux littéraires, les milieux artistiques. Le théâtre en est un des éléments. Hein. Donc, par exemple, Suzanne Rochefort, qui a écrit l'an dernier, publié un très beau livre sur les carrières et le travail des comédiens et des comédiennes à Paris au XVIIIe siècle, s'appelle « Vie théâtrale », Champvallon, très bon livre. Et dedans, elle étudie justement les carrières et elle montre que toute une série de comédiens et de comédiennes qui viennent de milieux populaires et qui vont acquérir une très grande notoriété, ce qui va leur permettre d'accéder à la bonne société, d'accéder à des cercles prestigieux. Et donc, par rapport à la société d'Ancien Régime traditionnel qui était fondée justement sur des privilèges, sur des hiérarchies sociales très fortes, la célébrité, et notamment au théâtre, mais pas seulement, est un des éléments démocratiques au sens où tout le monde, potentiellement, quelle que soit sa naissance, peut devenir célèbre grâce à un talent. Autre élément, effectivement, d'une sorte de modernité démocratique de la célébrité, c'est que la célébrité, elle est liée justement au public. Elle n'est pas une simple reconnaissance par des pairs ou par des protecteurs ou par la cour ou par des mécènes, mais c'est une reconnaissance qui vient du public. Or, le public, le plus grand nombre, eh ben, c'est un principe potentiellement démocratique de la reconnaissance. Donc, on a ces éléments, et en même temps, et ça, on y reviendra sans doute, mais la célébrité n'arrive pas véritablement à s'imposer comme une grandeur ou une valeur proprement démocratique. Elle est toujours critiquée comme étant illégitime ou éphémère. Ou, bon, Eric l'évoquait tout à l'heure, il y a quand même toujours cette idée que les gens qui deviennent célèbres, on n'est pas sûr qu'ils le méritent complètement, voire c'est peut-être pas les plus méritants, c'est peut-être pas forcément les meilleurs qui deviennent célèbres. Peut-être qu'en fait, les gens qui mériteraient le plus la reconnaissance sont justement des gens qui n'accèdent pas à cette célébrité ou à cette notoriété. Et donc, ça fait comme ça de la célébrité une forme, une valeur de la modernité qui est fondamentalement ambivalente parce qu'elle est à la fois associée à cette nouvelle modernité culturelle et politique et en même temps elle en marque les limites et c'est toutes les ambiguïtés du rapport aussi bien dans le domaine culturel que dans le domaine politique avec la question du public comme garant des hiérarchies en fait aussi culturelles.
Mais ça pose la question du critère. Alors, est-ce que, d'un point de vue historique, ça s'explique ou est-ce qu'il y a des variations là-dessus? Est-ce que la notoriété se base sur une maîtrise, sur un labeur? Alors, bon, l'ascendance protestante, évidemment, enfin, de ce côté-là. Ou est-ce que ça tient à du buzz, tout simplement, aussi? Donc, c'est pour ça qu'on met toujours en doute la notoriété. Moi, je viens plutôt, effectivement, d'une époque où je me souviens de quelqu'un, un acteur, je crois, plus âgé que moi, qui m'avait dit, tu vas voir, tu auras des mauvaises critiques jusqu'à 30 ans, mais si tu en as encore à 30 ans, elles vont devenir bonnes parce qu'en fait, tu seras là. Voilà, comme si la critique allait s'habituer au fait que voilà, tu auras passé une sorte de test d'endurance, et si tu es là, ensuite, il y a une notoriété qui sera basée sur le fait ben, que tu as construit une chose et que les gens vont reconnaître ce travail-là. Et j'observe actuellement, sans avoir d'ailleurs les moyens de le juger, je n'en sais rien, j'ai appris il n'y a pas si longtemps que certains critères de casting, que ce soit dans le lyrique ou au cinéma, peuvent être ceux du nombre de followers. Alors, pour Isabelle et moi, qui je crois n'étons pas tout à fait calés sur les réseaux sociaux, ça pose effectivement cette question-là. Alors ça pose la question de, alors si on n'y est pas, notre forme à nous de construction n'aura plus cours, ou alors est-ce que c'est une des manières de construire? On parle de cinéma et de théâtre, c'est peut-être... On associe toujours une notion de théâtre, de longueur, d'opiniâtreté, de carrière longue au théâtre. Et puis, on associe toujours le cinéma. On parlait à un moment d'acteurs Kleenex, de gens qui étaient montés au nu, puis ensuite absolument jetés, et que ça dépendait d'aléas sur lesquels le travail des unes, des uns et des autres n'avait pas grand-chose. Donc, on associe ces notions-là, et dans l'imaginaire, en tout cas dans le métier, il y a toujours une espèce de respect du travail théâtral, de la carrière théâtrale, qui ne serait jamais construite que sur un succès, mais sur une ténacité, une présence au long cours, ce qui est d'ailleurs presque... le théâtre est une... quand on appelle ça au cinéma, un plan séquence, voilà, le théâtre, le soulier de satin est un plan séquence de 8 heures qu'on ne peut pas reprendre. Donc c'est un plan séquence très très long par rapport au cinéma où effectivement on demande à être prêt à un certain moment et dans un rush d'une rare intensité parce que c'est quelques secondes. Si on peut rentrer dans cette discussion-là, moi j'ai la chance de faire du cinéma, j'ai la chance d'en faire. J'ai toujours eu un problème de préparation. Je crois que c'est Jouvet qui répondait à un jeune comédien qui demandait qu'est-ce qu'il faut faire pour quand on fait du cinéma, et il répondit trouve-toi une chaise. Voilà. Ah, ça, mais c'est pas faux. Enfin, au-delà de réussir à se poser quelque part, ne pas s'inquiéter du temps qui court, de la longueur de l'attente, réussir finalement comme une préparation sportive pour à un moment pouvoir déclencher quelque chose, être libre et absolument réveillé à ce moment-là, alors que de temps assez régulièrement quand même on se lève à 6h du matin pour un PAT, à 8h du matin, maquillage, etc., et qu'on ne tourne qu'à 15h, et que ce temps-là qui devient absurde au bout d'un moment, parce que les gens quelquefois s'en veulent de vous avoir levé un petit peu trop tôt, donc nous oblige à manger plein de pépitos, une espèce de surattention dont on ne sait pas faire grand chose, c'est compliqué, on veut lire et on se dit si je lis je me mets dans un autre univers, il faut que je reste dans l'autre bulle. Moi j'ai toujours eu ce problème là par rapport au théâtre, ou au théâtre, si on n'est pas bien du tout à la première scène, bon, si on n'a que la première scène, on n'est donc pas bien du tout du spectacle, mais si on a la chance d'avoir un rôle un petit peu continu, l'effet d'entraînement, de gagner en électricité, j'ai eu des fois le sentiment de ne pas du tout prendre le biais au début d'un spectacle, mais d'avoir la chance, au bout d'un moment, c'est une course de fond, donc il y a un moment, comme quand on court, l'endorphine, qui au bout d'un moment, là où ça fait mal, ça commence à faire du bien, et puis on se met à l'intérieur et les choses se partagent. Donc la pratique pour moi du cinéma, des théâtres, si je pouvais la résumer, mais vraiment bêtement, et c'est très réducteur, il y a d'un côté l'art du marathonien et de l'autre côté l'art du 60 mètres très, très, très rapide. Et réussir à être absolument libre, inventif, oublieux, sur quelques secondes après, action ! Et tout le monde qui vous regarde, et c'est le moment que tout le monde attend depuis 6 heures du matin, m'a toujours mis à moi une pression assez que je dépasse de mieux en mieux, mais je me dis toujours que j'ai pas fait carrière d'une certaine manière au cinéma parce que je n'arrive pas à gérer ce temps-là.
D'abord, juste une parenthèse, Denis Podalydès est le seul acteur que j'ai vu lire sur les plateaux de tournage des centaines de livres.
Je l'ai vu lire en vélo, donc...
Et moi, je l'ai vu lire en marchant.
Voilà.
Donc, voilà.
Donc, il y a quelques personnes qui l'ont vu sans livre, mais ils sont très, très
rares. C'est ceux qui tournaient avec lui entre moteur et action. Et coupé. Oui, je ne sais même pas le vocabulaire de mon métier. Non, mais je voudrais juste faire une toute petite parenthèse, et après je vous laisse rebondir sur ce qu'a dit Eric. C'est qu'il y a quand même quelque chose que tu as, toi, Eric, et que je partage quand même en partie avec toi, qui est le sens du collectif. Tu as beaucoup consacré de temps à la troupe en général, et en particulier à la Comédie Française. Il y a quelque chose de l'ordre du groupe avec, comme vous dites, à la Comédie Française, unique et ensemble. Mais je pense que c'est, et ça ramène aussi, je pense qu'on a ça en commun tous les trois, c'est ce souci de faire égalité, le plus possible. Donc de ne pas faire tout ce qu'on peut entendre sur ce que sont parfois les acteurs ou les metteurs en scène capricieux. On n'est pas dans le caprice, on est dans le faire ensemble. Dans le faire ensemble et le faire avant tout, pas dans le faire savoir. Et ce que je voulais dire, donc, toute ta vie, tu l'as construite depuis que je te connais sur le groupe. Il se trouve que la notoriété de la Comédie Française te doit beaucoup, ta notoriété doit beaucoup à ce que tu as fait à la Comédie Française, mais au fond, les gens, ce qu'ils retiennent, c'est cette espèce le mot est galvaudé, mais d'énergie d'amour, de créativité, d'envie de projeter à un public, de recevoir en retour, etc. C'est cette espèce de grande aventure collective, cette communion, qui a été pour moi le déterminant à ce que je veuille être actrice. C'est un jour, je me suis retrouvée sur une scène et je me suis sentie vivante des pieds à la tête, en communion avec mon partenaire et en communion avec le public qui réagissait à ce qu'on faisait et qui me donnait envie de continuer à créer. Et qui et cette interaction faisait que on surenchérissait les uns avec les autres, peut-être un peu dans le cabotinage, mais peu importe. C'était ce plaisir d'être ensemble. Ce qui est peut-être contraire à cette notion de célébrité, mais je veux juste faire un parallèle avec cette jeune femme qui a traversé l'Atlantique, Marine, je crois qu'elle s'appelle. Incroyable, qui a été suivie par tout le monde sur les réseaux sociaux, qui était courageuse, qui se filmait en train de... etc. Et qui a créé une sorte d'engouement à l'échelle de tout le pays et même du monde, qui a forcé l'admiration, qui a communiqué son amour de la mer et qui a mis le public dans un état de communion, de cette communauté, comme ils disent sur les réseaux sociaux, de gens qui aimaient cette fille et qui la suivaient dans son aventure. Je pense que, en fait, profondément, je pense que chaque individu recherche cette sensation collective, en fait. Et donc, nous... Quand on a cet amour-là, moi, je refuse presque même de faire un cas de la célébrité. Ça n'existe pas pour moi. C'est-à-dire que dans mon quartier, les gens, c'est les gens que je connais. Et puis en fait, c'est comme dans mon village. Et en fait, un jour, le village, c'est un peu dans toute la France. Et puis, mais bon, il n'y a pas de quoi en faire ni un problème, ni pas un problème. Bien sûr qu'il y a des choses qui ne sont pas marrantes avec ça, bien sûr qu'il y a... Mais moi, je refuse de perdre de vue que ce que je le fais pour être ensemble. Donc, sur un plateau de cinéma ou dans une salle de théâtre, pour être ensemble. Mais comme je prépare un dîner, je sais que ce moment de partage va être... voilà, quelque chose qui va nourrir ma vie. Je vais pas aller en faire un truc. Oh, hier, j'ai fait un dîner. Pour moi, c'est vraiment la même chose, en fait. Et donc, je casse un petit peu cette idée de... Je pense que c'est notre amour du collectif, enfin, de la communion. C'est presque un truc plus spirituel que anecdotique.
Une chose sur laquelle j'aimerais bien vous entendre tous les deux justement revenir, c'est puisque vous avez tous les deux cette expérience du théâtre et du cinéma. Or évidemment, c'est peut-être pour nous c'est quelque chose d'un peu mystérieux parce que c'est évidemment le même métier, comédien, comédienne, et ce que disait Eric à l'instant, c'était qu'en fait, c'est quand même deux manières, en tout cas, de l'exercer, qui sont très différentes. Alors là, l'exemple, c'était la question, effectivement, de la temporalité. Mais évidemment, c'est un rapport différent à la performance, c'est un rapport différent au groupe, au collectif, c'est un rapport différent au public, c'est un rapport différent à la reconnaissance. Alors, puisque tous les deux, vous avez cette chance, et de fait, il y a des passerelles, il y a quand même un certain nombre, effectivement, de comédiens de théâtre qui jouent au cinéma, et parfois, plus rarement, sans doute, le contraire. Donc, est-ce que vous pourriez effectivement revenir d'une part sur ce qui fait vraiment la différence de l'expérience du jeu, c'est le sujet du jeu d'acteur, du jeu au théâtre et au cinéma. En quoi c'est le même métier et en quoi c'est un exercice différent? Et puis aussi, pour garder quand même un peu ce fil, reconnaissance, notoriété, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des phénomènes effectivement de rivalité, tension entre, d'une part, entre des formes à la fois de reconnaissance à l'égard du public, disons de visibilité, célébrité, et inversement de légitimité que peut-être le théâtre et notamment la comédie française incarne, y compris dans le monde des comédiens.
Alors, je disais tout à l'heure que je n'avais jamais entendu une actrice ou un acteur me donner une définition qui serait commune. J'ai entendu des gens dire mais c'est absolument la même chose. Quelquefois, il y a cette réponse qui, moi, me tétanise toujours un peu, parce que j'ai tellement l'impression que c'est pas la même chose. Sinon, ça me serait simple. J'ai l'impression que tout jeu emporte son lâcher-prise avec lui. Si on peut définir le moment de théâtre, c'est au moment où, comme dirait Isée dans le partage de midi, il faut pas comprendre, mon pauvre monsieur, il faut perdre connaissance. Comme si tout le travail de préparation ou de maîtrise du texte n'était là que pour un socle qu'on oublie au bout d'un moment, et ça devient du jeu. Mais appuyé évidemment là-dessus. Mais donc autant au théâtre, ce socle-là, il est vaste, il est plus commun. Il y a le public aussi. Il y a un socle social plus important aussi parce qu'au théâtre, les gens vous les revoyez, vous les croisez trois mois et demi, 4 mois. Je ne parle pas de la comédie française, vous les croisez une vie entière, mais vous les croisez longtemps. Donc ça suppose aussi des attentions aux autres qui sont différents, mais je suis toujours fasciné par ce moment de lâcher prise. C'est pour ça qu'on... moi, par exemple, j'adore jouer quand je suis fatigué. J'ai l'impression, ou que j'ai un rhume ou une angine. Parce que j'ai l'impression que mes bêtes défenses enfin cessent et je commence à jouer à peu près simplement parce que j'ai plus la force d'essayer de prouver un truc, de me justifier, de me sentir légitime, illégitime, etc. Je commence à m'en foutre et c'est ce moment-là qui est important. C'est aussi pour ça que pour nous c'est différent de jouer en matinée ou en soirée. C'est pas du tout la même énergie. En soirée, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se délasse un petit peu et dans ce délassement, on arrive à jouer. Et on dit souvent que les gens de théâtre seraient plus respectueux. Il n'y a pas si longtemps, l'habilleuse sur Les Trois Mousquetaires m'a dit « Ah, on vous adore, vous, les gens du français. » On était deux, il y avait Julien Frison et moi. Et je m'attendais à ce qu'elle me dise « On vous entend, vous articulez, etc. » Et je lui ai dit « Pourquoi ?» Elle m'a dit « Vous êtes les seuls à remettre vos costumes sur les cintres. » Voilà. Donc il y a d'un côté une sorte de chose qui se construit, mais c'est aussi parce que nous, nos habilleuses, on les croise pendant une carrière entière. Donc si on ne se respecte pas, ça ne marche pas. Et il y a des formes de respect tout simple, de ranger à peu près sa chambre. Mais on dit souvent donc que les gens de théâtre seraient plus respectueux, que les gens de cinéma seraient plus capricieux. C'est peut-être vrai, mais moi j'y lis une raison. Je sais que moi, encore une fois, c'est pas une règle, hein, mais j'ai toujours l'impression que sur un plateau de cinéma, ça m'intéresse tellement, j'ai tellement envie d'être là bien pour les gens qui m'ont engagé. En plus, c'est des sommes d'argent qui sont importantes au cinéma, donc c'est aussi très impressionnant. Des fois, vous jouez Andromaque, vous êtes payé au théâtre et vous avez deux répliques au cinéma et vous êtes payé 30 fois plus. Donc vous vous dites, qu'est-ce que je fais avec cette impression-là? Donc ça développe d'autant plus mon attention aux autres, et finalement je me dis très souvent, j'ai tort, parce qu'au moment de la prise, je suis fatigué. En fait, j'ai pas pensé à moi, j'ai pas cultivé mon petit truc, je suis pas je m'en foutiste, j'ai fait attention à ça, à ça, à ça, à ça. Donc quand je joue, je fais attention à tout et je joue pas. Et que j'ai vu des gens qui apparemment étaient capricieux, mais j'ai deviné derrière le caprice une attitude de liberté par rapport au jeu. C'est-à-dire, je ne m'encombre de rien. Je ne veux pas savoir ça et ça et ça et ça et ça et ça. Non, je ne veux pas ranger mon truc, je ne veux pas ça, je ne veux pas ce dessert, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Pour être léger, absolument léger. À la Comédie Française, les acteurs sont travaillés de choses contradictoires, parce que de temps en temps, ils lisent l'après-midi une liasse budgétaire, parce qu'ils sont au comité d'administration, ils doivent donner un avis stratégique sur une chose, et donc ce n'est pas leurs écoles, ils s'y mettent, etc. Puis le soir, ils sont censés jouer avec le partenaire qui ne rentre pas, le chien d'aveugle, qui adore la tragédie, etc., et être léger comme tout. Et c'est des choses contradictoires. Donc pour moi, c'est le fait de trouver ce lâcher-prise qui est très différent, et que je n'arrive pas à trouver de la même manière, alors que j'ai des camarades qui ne se posent même pas la question, tellement pour eux, c'est exactement la même chose de faire ça.
Et c'est pour ça que tu joues Richelieu. Parce qu'il s'en fout pas du tout, hein, lui. Et puis un jour, peut-être, un metteur en scène, parce qu'il ne faut pas oublier les metteurs en scène, ce sont eux qui nous font jouer. Moi, je me considère comme un instrument. Cet instrument, il a pris des coups, il a été... Parfois, il a été oublié dehors, sous la pluie. Il ne sonne pas pareil. Et puis il y a quelqu'un qui va jouer de vous, dans le bon sens du terme. Oui, certains jouent mal avec leurs instruments. Mais et il va sortir des notes qui m'échappent. Donc moi, c'est cet aspect-là que j'aime bien. J'ai réussi à trouver l'oubli dans le fait de n'être absolument pas responsable de ce qui se passe. Mmh. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas du tout ce que j'ai fait, je ne me souviens de rien. J'ai suivi la direction d'orchestre et il sort de moi ce qui est bon ou pas bon, mais je n'ai aucune conscience de ce qui se passe.
Oui, c'est la même chose, sauf que chez toi, ça doit être très agréable à vivre. Ce lâcher prise.
Non, c'est une confiance, je crois, quand même. Parce que nous, au cinéma, on doit avoir confiance au metteur en scène, parce qu'il fait quelque chose de nous, il filme, on ne voit pas ce qu'il filme, il filme ce qui nous échappe aussi, et ensuite, il montrera le film. Au théâtre, c'est le metteur en scène qui doit avoir confiance aux acteurs, parce qu'une fois qu'il sera plus là, ils feront ce qu'ils veulent. Donc, mais en même temps, ça conditionne les rôles qui sont donnés. Tant que moi, si jamais je faisais un film, je suis sûre que ça ne serait pas du tout Richelieu. Parce que je te connais, parce que je sais que tu ne saurais même pas que ça tourne, en fait.
J'ai eu Isabelle Nanty comme professeure un jour.
Oui, enfin.
En parlant de ça, d'ailleurs, c'est drôle, j'ai le souvenir qu'à l'époque, les professeurs et professeuses de théâtre... nous laissait nous concentrer dans l'illusion qu'il fallait se concentrer. Donc, généralement, on prenait toujours 2 minutes le nez collé dans un pandard en velours poussiéreux pour essayer de pleurer d'un œil, pour se mettre dans l'état, etc. Et Isabelle était la seule à voir, mais c'était la seule à l'époque d'avoir une technique absolument différente, que je n'ai sans doute pas assez écoutée, qui était, elle nous désignait dans la salle, dans le petit gradin, là, c'est toujours des cours à peu près 30 personnes, et elle nous demandait même de commencer la scène en descendant du gradin. C'est-à-dire sans aucune préparation, justement, de se dire je vais peut-être mieux jouer si je ne me prépare pas.
Bah parce que c'est l'instrument qui joue. Donc c'est tel que tu es au moment où tu es pris, enfin, ou invité à rentrer en scène, ou, et comme tu disais tout à l'heure, quand tu as le rhume ou quand tu joues avec ce que tu as, et oui. En fait. Bah, c'est pas de grande humilité ce que je vais dire, mais ce qu'on a, c'est déjà pas mal. Bah non, mais c'est tout le monde. Mais enfin, on se met des pressions pas possibles, alors qu'en fait, notre âme, on peut pas la contrôler. Et moi, j'aime voir les acteurs arriver alors qu'ils ne savent pas qu'ils vont devoir donner quelque chose. Franchement, toi, par exemple, franchement, enfin, tout le monde va être d'accord, on n'a pas besoin que tu joues.
Je jouerai plus.
Mais on n'a pas besoin. Tu arrives avec tout cet imaginaire, tout ce que tu as vécu, tout ce que c'est déjà, c'est monumental déjà.
Mais cette histoire de lâcher prise, c'est curieux parce que ça se passe dans plein de moments de la vie. Cette règle-là, finalement, j'en ai découvert la grande utilité en étant administrateur général. C'est pas du jeu, pourtant, être administrateur général, mais je me souviens que quand j'étais jeune acteur, et à l'époque, on allait au Pop Club, je sais pas, de José Arthur, je sais pas si vous vous souvenez.
Les chats.
On était invités, on devait être là, puis on devait faire des extraits. Ça me foutait une trouille, mais j'étais capable de pas dormir pendant une semaine. Et donc, quand je suis devenu administrateur, je me dis, si je continue à m'angoisser comme ça, ça va pas aller, parce que des Pop Clubs, j'en ai à peu près tous les 3/4 d'heure dans ma journée. Et donc, je me suis mis d'accord avec celle qui gère les rendez-vous, mon agenda, etc. Je lui ai dit, tu me l'envoies le soir, pas avant, parce que je ne veux pas me préparer, parce que je ne veux pas m'angoisser. Si je sais ce que je dois faire, je le fouille, je m'embourbe, je fais les questions et les réponses, et puis j'arrive devant la situation en l'ayant tellement imaginée qu'évidemment elle ne ressemble pas à ça, et je suis pas sur le hic et nunc, comme on dit au théâtre. Et que le fait de m'obliger à me faire confiance en disant, il y a un moment, ces thèmes-là, tu les connais à peu près, tu as quelque chose à dire, fait que je suis beaucoup plus à même de jouer. En n'étant pas préparé, c'est toujours cette histoire de lâcher prise, mais qui évidemment un lâcher prise qui est toujours pour moi basé sur un travail évidemment. Mais j'avais une question à vous poser, monsieur professeur Lilti, est-ce que cette histoire de la renommée elle s'est inventée comment ? Ou est-ce qu'à chaque fois, c'est des fortes personnalités ? Et est-ce que ce sont des gens qui cultivent cette renommée ? Ou est-ce que c'est des gens qui en sont victimes et qui potentiellement, à un moment donné, ôtent ce joug-là ? Je pense toujours, enfin, on a eu ces explications-là, Zidane, le coup de boule à Materazzi. Zidane qui est au sommet absolu de son art, de sa reconnaissance, et c'est comme si ce réflexe devant toutes les caméras du monde. Je veux dire, ces gens-là sont tout à fait intelligents, ils savent très bien où sont placées les caméras, on ne peut pas imaginer faire ça en douce, surtout sur un match comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de truc, comme si il voulait lui-même donner un énorme coup de pied dans la fourmilière de sa renommée pour redevenir, je ne sais pas, commun ou libre, j'en sais rien, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça de gens qui ont tellement souffert de leur renommée qu'ils sont devenus les misanthropes, qu'ils ont trouvé leur désert.
Alors, d'abord, on a la réponse à une petite énigme qui quand même m'interrogeait. Parce que dans le titre, c'est jouer au théâtre, au cinéma ou ailleurs. Donc je me posais la question. Donc visiblement ailleurs, ça peut être le conseil d'administration voilà. Et ça peut être le terrain de foot. Donc voilà. Donc
bon,
ça,
nous y sommes.
Effectivement. Donc voilà. Et de fait, on dit bien puis jouer. Donc voilà. Non. Alors pour répondre plus sérieusement à la question. Absolument, et en fait, on a des deux. C'est-à-dire que on a, dans l'histoire de la célébrité, notamment si je me situe au XVIIIe ou au XIXe siècle, des gens qui vivent leur célébrité, enfin, d'abord qui la recherchent, qui la nourrissent, parce que la célébrité, c'est aussi d'abord l'accès à des ressources économiques. Hein, on est mieux payé, c'est l'ouverture au succès. Alors, 18e siècle, exemple, à la Comédie française, en théorie, ça ne change pas. Mais en revanche, dans les théâtres privés, les théâtres des boulevards, qui se développent à partir du milieu du 18e siècle, eh bien, être la célébrité permet d'avoir des contrats beaucoup plus importants, d'être mieux payé, etc. Donc, il y a des tas d'éléments. Et puis, c'est une reconnaissance par le public. Ça a énormément de formes de gratification narcissique, symbolique. Donc, il y a énormément dans les métiers qui sont destinés vers le public, c'est-à-dire chez les comédiens, chez les écrivains, chez les artistes, une recherche de la célébrité qui est entretenue. Alors, au XVIIIe siècle, puisqu'on est encore dans la naissance hein, de ce régime de la célébrité, ça reste des choses artisanales. Et puis, à partir du 19e siècle, on a, par exemple, des naissances de gens qui sont spécialisés, c'est-à-dire la figure de l'impresario, par exemple, qui devient importante, qui sera ensuite l'agent, dont ça peut être un des rôles. Donc, bien sûr. Et là-dedans, il y a des gens qui vivent plutôt bien cette célébrité, qui en sont heureux, qui ont un plaisir à être reconnus, justement, y compris. Et puis, on a énormément de cas, et c'est ça qui est intéressant, de gens qui vivent cette célébrité, leur célébrité, comme un fardeau. Mmh. Alors, soit comme une illégitimité, c'est-à-dire que ça, c'est une chose intéressante, c'est-à-dire la difficulté à se sentir à la hauteur de cette notoriété. Et donc, ce sentiment d'être illégitime, d'avoir une célébrité, un amour du public, pour reprendre ce que disait Isabelle, qui est tellement important qu'on ne se sent pas à la hauteur, qu'on ne se sent pas illégitime, et que ça amène à des effets, alors soit d'angoisse ou de rupture ou peut-être de lâcher prise intempestif, comme Zidane en finale de Coupe du Monde. Donc ça c'est des cas. Et puis véritablement aussi des cas où la célébrité est vécue comme une forme d'aliénation. Parce que on devient un personnage public, justement reconnu qu'on veut pas forcément être reconnu, et donc au XVIIIe siècle, par exemple. Alors là, en l'occurrence, c'est pas un acteur, c'est un philosophe, Jean-Jacques Rousseau, mais c'est celui qui a le mieux vécu à la fois cette célébrité. Il est reconnu quand il se promène dans la rue, il est suivi, les gens lui écrivent, les gens viennent lui demander ce qu'on appelle aujourd'hui des autographes, viennent lui rendre visite, et très vite, il va décrire cette célébrité comme un fardeau. Il dit, j'ai la célébrité des malheurs, et il va réagir à ça en se mettant à accuser le public de le défigurer, d'être injuste à son égard. Plus le public l'aime, et lui, au lieu d'être dans l'adhésion sentimentale à cette communauté, il va au contraire se retirer, et c'est la fin de sa vie, c'est les rêveries du promeneur solitaire, c'est au contraire la mise en scène de la solitude. C'est-à-dire ce paradoxe de l'homme le plus célèbre et le plus aimé, peut-être une communauté de fans, d'admirateurs qui lui écrivent de manière enthousiaste et qui se vit comme une espèce de proscrit solitaire vivant sa propre célébrité comme un fardeau. Donc ça, on a ce phénomène-là. On le trouve aussi chez des acteurs, chez des musiciens. Il y a cette épreuve qu'est la célébrité, qui peut être, je crois, très déstabilisante hein, sur un plan psychologique. Donc ça, on le voit bien dans l'histoire hein, de la de la célébrité. Et puis ça va évidemment jusqu'au XXe siècle. Alors moi là, je prends au XVIIIe, XIXe des exemples alors soit d'écrivains, théâtre. Et puis évidemment au XXe siècle, c'est avec le cinéma, puisque c'est quand même le cinéma qui au XXe siècle va être pourvoyeur de grandes vedettes, célébrités. Bon, le cas de Brigitte Bardot est évidemment quand elle a un accident de voiture, et puis immédiatement il y a les paparazzi partout, il y a cette d'ailleurs le cinéma va être lui-même un grand thème de réflexion du cinéma, de cette violence que peut ressentir la vedette, le moment où la reconnaissance se transforme en violence du public sur sa vie privée, sur son intimité, sur son désir d'être pas toujours reconnu. Donc j'imagine que, alors Isabelle, vous disiez tout à l'heure que font ça vous posait pas de problème, vous étiez content. Est-ce que ça arrive quand même des moments où vous êtes les gens viennent vous voir quand vous avez pas envie, quand vous avez envie d'être tranquille, ou en tout cas de sentir qu'à tout moment vous n'êtes pas, voilà, il y a des moments où vous aimeriez bien être davantage anonyme, et en fait, vous êtes reconnu, ou en tout cas, où est-ce que vous connaissez, ou est-ce que si vous, c'est pas du tout un problème, est-ce que vous avez connaissez des acteurs, des actrices, pour qui c'est quand même une difficulté.
En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, je m'efforce de ne pas en faire un cas, parce que c'est la meilleure façon de que ça n'en soit pas un. Quand ça en est un, c'est ça touche à mes proches, c'est quand je suis en train de parler très sérieusement avec quelqu'un et que je suis coupée, mais ça c'est de l'ordre de l'impolitesse. Sur le moment, je ne mets même pas ça sur le compte de la célébrité. Je refuse de considérer cette chose et je ne le vis pas en fait. Et je trouve que c'est le meilleur moyen enfin d'être un peu innocente avec ça un peu. Et non mais tout à l'heure quand j'ai lu vos écrits, j'ai vu que la célébrité vient avec le média, vient avec l'écrit. Bah oui, non, c'est intéressant parce que ça vient en fait, c'est le savoir. En fait, c'est le faire savoir qui fait, qui crée son contraire. En fait, là où est, enfin, pour moi, l'écrit, c'est la profondeur, c'est le contraire de la superficialité, c'est le contraire de. Et donc, je trouve étrange, et même dans ce siècle des Lumières, je trouve étrange que une chose a créé son contraire. Parce qu'autrefois, il y avait, la célébrité, on l'appelait plutôt la légende ou la renommée, et c'était de tradition orale. On va dire quelqu'un qui avait fait des miracles ou quelqu'un qui avait fait... il y a eu les écrits quand même des apôtres, mais... Dans les campagnes, même, je ne sais pas, Jeanne d'Arc, je ne sais pas comment colporté, mais je ne sais pas, la renommée de quelqu'un, celle de Jean-Jacques Rousseau, ce n'est pas lui-même qui s'est auto-renommé. Si ? Non, mais ça m'intéresse. Je ne sais pas, parce que ça me pose un petit souci.
Alors, bon... Je peux répondre sur le cas de Rousseau, même si ce n'est pas un acteur.
Je termine juste avec ça. C'est que nous, on a un truc en plus aujourd'hui, c'est que quelqu'un qui est public, on va dire comme ça, je préfère, quelqu'un qui est public, il doit être exemplaire. Qu'en était-il au XVIIIe siècle ?
Bon, alors... Évidemment, là, au départ, alors c'est une très bonne définition, quelqu'un qui est public. Et donc, effectivement, au départ, la célébrité, ça vient de gens qui ont un rapport au public, dont l'activité, la profession s'exerce en direction du ou des publics. Donc, évidemment, les acteurs, les actrices sont particulièrement dans ce rôle, mais aussi les écrivains, les philosophes. Donc, par exemple... Bon, prends l'exemple de Rousseau, même si c'est pas un acteur, mais il écrit. il vise un public. Et donc, au départ, ce qui va faire sa renommée, c'est d'abord le succès de ses écrits. Et notamment, des écrits qui sont à la fois philosophiques et très controversés, polémiques. Donc, ça crée un premier succès, mais dans un espace relativement restreint. Et puis, deuxièmement, il va se construire un personnage public. Il se met à s'habiller différemment, il se met à justement mettre en scène son exemplarité. Mais le problème, c'est qu'il dit, maintenant que je suis un homme public, je dois être exemplaire. Donc je dois me comporter conformément à mes idées. Et donc, par exemple, je dois publiquement refuser la pension du roi. Le roi lui propose une pension pour le féliciter de son succès. Ça se passait comme ça au XVIIIe siècle. Il le refuse, ce qui ne se faisait absolument pas. Mais il dit, je dois être exemplaire. Oui. Aujourd'hui, ce serait refuser la Légion d'honneur. Hein. Donc je mets en scène, mais du coup, cette exemplarité va nourrir l'attachement ou l'adhésion de beaucoup de gens à sa personne, et inversement, des critiques d'autres qui disent oui, mais cette exemplarité, c'est de la mise en scène. Mmh. C'est de la mise en scène pour jouer. Justement pour renforcer sa célébrité. Et ça, c'est intéressant. La célébrité, elle est toujours suspecte. Elle est toujours suspecte d'être, au fond, justement, une mise en scène. Et justement, Rousseau, qui n'est pas un acteur, on va lui reprocher de jouer un personnage sur la scène publique. Et puis, troisièmement, il écrit un roman, La Nouvelle Héloïse, qui est le best-seller du siècle. Et donc, sa célébrité, elle se nourrit aussi de ça. Et ensuite, il y a des gens qui vont nourrir cette célébrité en racontant ses faits et gestes dans les journaux, et donc ça c'est la nouveauté du XVIIIe siècle, puis son image qui va circuler, parce qu'il y a l'écrit, mais il y a l'image. Et donc, il y a ces images qui circulent, et là on retrouve la même chose chez les acteurs et chez les actrices. On raconte leurs faits et gestes dans les journaux, on publie des anecdotes dramatiques qui racontent justement des tas d'éléments, alors soit de leur vie, à la scène, mais aussi parfois de leur vie privée, et puis alors, leur image circule. C'est vrai que le théâtre, au 19e siècle, au 18e, 19e siècle, est un grand pourvoyeur de célébrités. Et évidemment, ensuite, il y a ce relais du cinéma, et puis en entendant Eric Ruff tout à l'heure qui disait aujourd'hui, c'est les réseaux le nombre de followers qui jouent, et j'avais en tête, ça m'a fait penser à cette... ce film d'Iñárritu, Birdman, je ne sais pas si vous l'avez en tête, qui est justement intéressant sur le métier, sur ce que c'est que de jouer au théâtre et au cinéma. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Birdman d'Iñárritu, qui est sorti il y a une dizaine d'années, et dans lequel Michael Keaton joue un acteur devenu une énorme star de cinéma, parce qu'il a joué un super-héros, Birdman, qui l'a rendu extrêmement célèbre, il y a eu des suites. Bon. Et puis, justement, il refuse de jouer Birdman 4, parce qu'il dit, bon, là, c'est trop, et il veut monter une scène à Broadway, une pièce à Broadway. Et donc, va vers le théâtre, et ça se passe très mal, il y a toute une série de catastrophes, et évidemment, il recherche, non pas à continuer à jouer sur cette célébrité, mais qui est une célébrité, bon, jouer un super-héros, il trouve que c'est pas très légitime par rapport au rôle d'acteur, par rapport justement à son métier d'acteur, par rapport à son talent, à sa technicité. Et donc, il va chercher au théâtre une autre forme de reconnaissance, qui est une reconnaissance, cette fois, plutôt professionnelle, de son talent, selon les cas. Il y a une scène assez terrible avec une critique de théâtre dans la presse, en tout cas dans le New York Times, je ne sais pas, et qui lui dit « Oui, mais vous n'avez rien à faire là, vous êtes un acteur de blockbuster, vous n'avez rien à faire au théâtre, c'est un coup médiatique que vous faites, mais... » Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que je disais, c'est que donc on a cette opposition entre ces deux univers, celui de la célébrité publique médiatique, celui du théâtre et de la reconnaissance par les milieux, disons, avant-gardistes, et puis... À un moment, il y a une dispute avec sa fille, qui est jouée, je crois, par Emma Stone, si je me souviens bien. Et alors, sa fille lui dit, non, mais de toute façon, t'es ringard, en fait, avec ton cinéma et ton théâtre, parce que tu détestes les blogueurs, t'es pas sur Twitter, t'as pas de compte Facebook. Donc, tu n'existes pas. Voilà, c'est la conclusion. Il n'existe pas. Et donc, c'est une espèce de vision comme ça, très, très, très... pessimiste, hein. On rassure, hein. c'est ridicule. Mais sur cette menace, en tout cas, sur tout d'un coup ce face-à-face entre le théâtre et le cinéma, qui tout d'un coup risquerait d'être dépassé par de nouvelles formes à la fois de notoriété, mais surtout de publicité, et peut-être aussi de jeux d'autres endroits, hein, ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque que, justement, le jeu d'acteur, c'est-à-dire en fait aussi la mise en scène, le fait de jouer des personnages, de se mettre en scène, aujourd'hui se déplace vers d'autres espaces de reconnaissance du public?
Moi, je ne sais pas si je vais réussir à le dire, mais j'ai l'impression du contraire. Une sorte de paradoxe, mais plus on rentre dans un monde fake, sans que ça soit négativement désignant, enfin, on va venir avec l'IA, ce qui est utile, ce qui n'est pas utile, etc. Mais plus on rentre dans ce monde-là, et plus le faux du théâtre va devenir une réalité. Dans nos aires de post-vérité, où on ne sait pas exactement qui croire, quel média prendre, etc., où on est censé se méfier de tout et que il est pas simple de savoir à quelle sauce on est mangé, le théâtre, dans son iket nunc, quelquefois, parce qu'en plus les œuvres travaillées sont des œuvres qui nous intéressent toujours, parce que l'équation posée, on l'a toujours pas résolue, mais qu'on peut pas les soupçonner d'avoir des éléments de langage parce que c'est écrit il y a 2 siècles, il y a 3 siècles, comporte une vérité qu'on peut entendre très bien sans soupçon. Je suis assez sûr que la salle de théâtre, dans son hic et nunc, dans sa communauté, comme tu disais, mais pas une communauté cumulée, une communauté qui se voit, qui se sent, qui se renifle, à des beaux jours. Le théâtre a des beaux jours devant lui, je pense.
Oui, c'est en fait. Mais ça concerne peut-être que ceux qui ont été éduqués depuis l'enfance, nous tous, hein, par exemple, sur une base qui est la relation humaine. Et donc, on peut tout sauver avec ça. La relation à l'écran et au virtuel délite un petit peu l'empathie et donc le bouleversement possible. C'est une question. Mais... vous m'avez fait penser à un truc. C'est pour ça que j'ai un carnet. Je vais retrouver.
Mais moi, j'avais une question. Je ne sais pas s'il y a des réponses, mais ça me passionne. Comment on n'arrive pas à savoir pourquoi est-ce que certaines personnalités ou certains moments de la carrière aimantent ou créent une adhésion qui devient une renommée, une réputation, un succès? Est-ce qu'il y a des typologie d'adhésion, ou est-ce qu'elles ont changé dans l'histoire? Est-ce qu'on a d'abord suivi quelqu'un comme un soldat suivrait un chef qui ne lui ressemble pas parce qu'il est plus grand, il a plus de courage, plus d'expérience, plus de savoir stratégique, etc.? Est-ce qu'il y a... Moi, j'ai l'impression de temps en temps, si je le sens pour moi, et au cinéma, si j'admire quelqu'un dont je ne connais pas du tout la vie parce que je l'ai vu à l'écran, c'est toujours parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de moi dans cette personne-là, et qu'on aurait comme un lac souterrain qui serait un peu commun. Donc c'est presque un effet de reconnaissance, mais tellement plus clair, tellement plus beau, tellement plus... Voilà, ce serait ça. Et puis maintenant, encore une fois, sans jugement, ce déplacement-là... je me souviens avoir visité le Louvre devant des gens qui photographiaient la Joconde, et maintenant on voit des gens qui se photographient avec la Joconde, ce qui est un déplacement assez intéressant, mais c'est aussi parce qu'on a tous les outils pour le faire, etc. Mais justement, vous parliez que la notoriété est finalement, au siècle des Lumières, une qualité d'intégration et d'égalité, parce qu'on pouvait sortir du peuple et avoir cette reconnaissance, alors que sinon elle n'était donnée qu'aux gens qui avaient accès à la cour. Est-ce que les algorithmes, est-ce que le fait de se mettre en scène, de photographier son plat, la tour Eiffel, etc., sa chambre d'hôtel, truc et machin, d'envoyer tout ça, cette mise en scène de soi-même, qu'est-ce que ça devient? Est-ce que ça ôte de la notoriété à celles et ceux qu'on désignait avant comme étant les vedettes, les stars, pour différentes raisons? Est-ce que cette chose-là s'épuise pour une espèce de dispersion absolue de la notoriété, chacun étant le propre fan de lui-même? Enfin, qu'est-ce que cette chose-là devient?
C'est très compliqué. Alors, c'est ce que les sociologues appellent les micro-célébrités, la micro-célébrité. Donc effectivement, avec des tas de gens qui est lié aussi à le phénomène des bulles culturelles, des micro-milieux, etc. Donc il y a des gens qui sont célèbres au sens où ils ont justement beaucoup de followers, mais que vous connaissez pas parce que justement vous les suivez pas sur les réseaux, vous les suivez pas sur Instagram, vous les suivez pas. Donc ils peuvent créer le même type d'adhésion et de curiosité, mais dans des poches, et n'être pas ces grandes célébrités qu'ont pu être, Brigitte Bardot ou de Talma au début à la fin du XVIIIe et XIXe siècle, hein, grand tragédien, etc., qui était où la célébrité faisait unité. Donc là, il y a effectivement un risque d'éclatement de micro-célébrités. C'est encore un peu tôt pour dire la façon dont la reconfiguration des espaces médiatiques liés à Internet transforme ces effets, ces mécanismes de célébrité. C'est encore un peu tôt pour le dire. Il y a des phénomènes, on a deux phénomènes, disons, en tension, mais je ne suis pas sociologue de la célébrité, mais pour ce qu'on en voit, c'est à la fois cet éclatement de micro-bulles et de micro-célébrités sur les réseaux ou sur les plateformes. On va dire que c'est le modèle influenceur, influenceuse, en gros. Mmh. Et puis, inversement, on a aussi quand même l'imaginaire médiatique actuel fait aussi qu'il y a des mégastars globales, hein, qui ont une notoriété tout à fait considérable et qui sont toujours, disons, du milieu des performeurs, que ce soit au cinéma, alors sans doute plus qu'au théâtre, ou dans la musique. Bon, je ne sais pas, Timothée Chalamet, Taylor Swift. Bon, donc là, on est plutôt dans des phénomènes très classiques d'une hyper-concentration de la célébrité sur quelques figures. Donc, pour répondre à la question, en fait, la célébrité, le rapport des publics aux gens célèbres, en fait, on peut l'opposer à la question du charisme politique, à la question de la réputation dans des milieux restreints. Il y a un côté très énigmatique, hein, dans la célébrité. Je pense que vous êtes bien... Voilà, vous voyez une expérience. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a toujours quelque chose qui est un peu inexplicable, qui n'est pas... parce qu'on est au-delà du simple fait mesurable de la reconnaissance du talent. Il y a toujours quelque chose qui va au-delà avec la célébrité, et qui n'est pas du pur, qui n'est pas uniquement du côté de l'estime, de la réputation ou de l'admiration. Il y a une part d'admiration dans la célébrité, mais il y a une part d'attachement affectif à la personne privée, indépendamment de son talent ou de sa réussite. Il y a le fait de reconnaître effectivement quelque chose dans la personne telle qu'elle est projetée dans l'espace public. Je vois, donc, il y a des acteurs, on n'a pas tellement besoin d'avoir forcément vu leurs pièces ou leurs films pour avoir une adhésion, y compris à la façon dont ils existent en tant que personnages médiatiques et pas simplement en tant qu'acteurs ou en tant qu'actrices. Et c'est vrai pour des célébrités dans bien d'autres domaines. Et puis, donc, il y a un registre qui est... Il y a l'admiration, il y a l'attachement affectif à la personne. Et puis, il y a un registre qui est assez différent, qui est un registre de la curiosité, y compris d'une curiosité qui peut être assez critique. C'est-à-dire qu'on peut être à la différence... Donc, on peut être assez... c'est pour ça qu'on peut être assez critique des célébrités. Il y a plein de gens qui s'intéressent, par exemple, qui lisent la presse, qu'on appelle la presse people, celle qui raconte la vie des célébrités. pas forcément dans un registre de culte de ces célébrités, mais au contraire pour s'en moquer, pour avec un peu narquois, ou simplement par un registre parce que c'est l'actualité. La vie de ces célébrités, à partir du moment où ça fait l'actualité, donc il faut être au courant, parce que c'est aussi un sujet de conversation, c'est quelque chose qui crée, par exemple, les communautés qui se créent autour des célébrités, c'est pas simplement des communautés affectives, ça l'est, bien sûr, mais c'est aussi des communautés de gens qui, ensuite, parlent. C'est un sujet qui fédère de connaître les dernières anecdotes, de savoir, y compris, par exemple, avec qui sort tel acteur ou telle actrice, qui lui est arrivé, elle a rompu, etc. Donc ça, c'est toute l'ambiguïté, toute la complexité de ces phénomènes de célébrité qu'on trouve au XVIIIe siècle. Rousseau, c'est une des choses qui le rendait dingue. Il disait, mais en fait, les gens ne lisent pas mes livres. Ils lisent dans les journaux des anecdotes sur ce qui m'est arrivé, et du coup, ça les dispense de lire mes livres. Et donc, là où il pensait que la célébrité allait être un instrument pour diffuser sa philosophie ou ses écrits, en fait, elle devient potentiellement, elle peut devenir un obstacle. Ou chez des acteurs ou des actrices, ça peut les enfermer, par exemple, dans un rôle, dans un registre, ou je crois que c'est Goethe qui disait quand on a fait une fois quelque chose qui a plu au monde, il s'ingénie à vous empêcher de faire autre chose. Mmh. Hein, donc cette idée, donc ça aussi, ça peut être un effet. Donc c'est, voilà, c'est une... Pour autant qu'on puisse l'étudier historiquement, depuis le XVIIIe siècle, c'est le lien entre les publics et les célébrités est beaucoup plus ambigu, et notamment parce que la façon, soit qu'un simple registre d'admiration, soit parce que c'est aussi un type d'explication qu'on a souvent mis en avant, qui est le culte, c'est-à-dire l'idée que les stars, les célébrités, les vedettes seraient les nouvelles divinités. Hein, ça a été beaucoup. Edgar Morin avait écrit un très beau livre, hein, Les stars, sur les stars de cinéma, où il développait cette idée. C'est une métaphore qui a souvent été utilisée. Elle était très utilisée à la fin du XVIIIe siècle. Par exemple, la grande tragédienne anglaise Sarah Siddons, hein, on disait c'est de l'idolâtrie. Donc il y avait cette critique de la nouvelle idolâtrie. On le retrouve, bon, Greta Garbo, la divine, etc. Donc c'est quelque chose, mais à mon avis, c'est cette lecture uniquement où les stars seraient les nouvelles divinités, les nouveaux dieux de l'Olympe, ça passe à côté, je pense, de ce qui fait l'ambiguïté, justement, du régime de célébrité.
Pour revenir justement à Rousseau, est-ce que c'est plus quand même le contenu de ses écrits et qui ont interpellé le public? Est-ce que ce public était un public lettré? Est-ce qu'il était un public de gens qui souffraient peut-être de ce qu'il dénonçait? Et surtout, est-ce que Rousseau, aujourd'hui, ne serait pas hué par ces leaders d'opinion, qu'on les appelait comme ça autrefois, les leaders d'opinion, qui sont devenus quand même moralisateurs? Alors moi, je ne sais pas où est la morale, hein, mais il y a des petites évidences, hein, de toute façon, toujours en lien avec le respect de l'autre. Mais est-ce que Rousseau n'aurait pas été lynché à notre époque? Par exemple, il a abandonné 5 enfants, je crois.
Moi, je veux bien répondre, mais ça nous éloigne un peu du sujet. Alors moi, si vous me poussez sur Jean-Jacques Rousseau, je peux répondre et diffuser, mais les gens sont quand même venus pour entendre parler du jeu d'acteur.
Ah, mais combien de personnes savaient que Rousseau avait abandonné 5 enfants? Ah, quand même. Bon, et vous en pensez quoi? À l'époque, c'était normal, donc personne n'en pensait rien, c'est ça?
Non, pas du tout. Il a été. Alors, je réponds en deux minutes. De fait, c'est à la fois. Donc, en fait, il est élu à la fois par un public au départ, par un public d'abord d'écrivains et de lettrés. Son premier grand succès, c'est réponse à un concours académique. Donc, c'est d'abord un milieu. Il est très lié, au début, il va être protégé et très lié à des milieux aristocratiques et mondains avec lesquels il va rompre. Et puis, progressivement, justement, ce qui fait l'effet de sa célébrité, c'est qu'il va toucher un public beaucoup plus large. Et on voit dans sa correspondance, il y a des gens qui lui écrivent, qui sont des artisans, qui sont des gens du peuple. Et on a l'autobiographie d'un vitrier parisien, Jacques-Louis Ménétra, qui le reconnaît dans la rue, qui est très fier de lui avoir parlé, qui dit avoir lu ses écrits. Donc voilà, il touche un public plus large. Donc la célébrité, c'est aussi ça par rapport aux milieux très restreints, qui étaient ceux des salons, qui étaient ceux des académies. C'est aussi la manière de toucher un public, il le touche par ses écrits, il le touche évidemment par ses positions politiques, sociales et morales, et il le touche par ses romans, et donc par, il invente en fait une nouvelle culture, enfin, pas tout seul, mais il incarne une nouvelle culture qui est celle du sentiment, hein, de la sentimentalité. On dit que c'était le maître des cœurs sensibles, et donc c'est tous ces éléments-là, et donc les gens s'identifient à lui, ils lui écrivent des véritables lettres d'amour, ils disent « Vous avez changé ma vie, j'ai lu vos écrits, ça a changé ma vie ». Il y a un type qui lui écrit en lui disant « Je ne suis heureux que quand je peux parler de vous, soit aux gens qui vous aiment, soit à ceux qui ne vous aiment pas ». Donc il y a des gens qui ne l'ont jamais rencontré, qui ne le rencontreront jamais, et qui entretiennent avec lui un rapport d'intimité à distance, très intense. Exactement, semblable, mais il y a l'exemple de Rousseau, mais il y a des comédiens qui ont la même chose. Donc, je citais tout à l'heure Talma, donc grand tragédien fin du XVIIIe siècle et de l'Empire. Eh bien, Talma, il a aussi aux archives de la Comédie française, il y a la correspondance que reçoit Talma et il y a des lettres de gens qui sont très enthousiastes, qui veulent absolument le rencontrer, qui disent qu'il est un véritable dieu de la scène et l'un qui écrivait « Je viens à Paris, je voudrais absolument vous rencontrer. Venir à Paris sans voir Talma, c'est comme aller à Rome sans voir le pape. » Oui. Donc il y a ce genre effectivement de rapport. Et quand Talma meurt en 1826,
il l'a rencontré. C'est...
Et, quand il l'a reçu. Et quand Talma meurt en 1826, c'est la une de tous les journaux. Le Mercure publie pendant plusieurs mois la une en noir pour porter le deuil. Et il y a 100 000 personnes qui suivent le cortège dans les rues de Paris parce que c'est 1826. Et un siècle plus tard, en 1926, c'est la mort de Rudolph Valentino. Et il y a à nouveau 100 000 personnes, cette fois à New York, qui suivent ça. Donc, il y a comme ça une espèce de longue durée de l'attachement à ces figures publiques d'acteurs et d'actrices.
Mais justement, là où il peut se passer des choses comme ça de nos jours, c'est plus avec des individus qui sont phénoménaux. Des phénomènes, enfin des. Quand vous parlez d'enterrement, je repense à l'enterrement de Johnny. Moi, je ne l'ai jamais vu sur scène, mais il paraît que c'était phénoménal. De Callas, c'était phénoménal. Il y a quand même. Moi, ce que je disais l'autre jour, quand je vais à la Comédie française, je vois des acteurs ou des actrices qui font. Qui crée des moments que je trouve spectaculaires. Bon, les spectacles sont spectaculaires, mais ce que font les acteurs et les actrices ne l'est pas moins. C'est-à-dire que c'est là où je me suis dit ah oui, en fait, être acteur ou actrice ici, c'est être un athlète. C'est être un athlète des sentiments. C'est parfois phénoménal, ce qu'on peut voir sur scène. C'est assez rare, quand même, mais quand ça se passe, ça vous imprime, ça vous impressionne, ça vous imprime à tout jamais. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on disait, peut-être.
Si, parce que Justement, c'est une chose sur laquelle moi, je voulais vous interroger. C'est la question de, justement, de la... Bon, je reviens, c'était un peu une question que j'ai déjà abordée tout à l'heure, mais sur la différence théâtre-cinéma. Et là, sur la question, justement, de la technicité et de la performance. Donc, parce qu'évidemment, on voit bien qu'au théâtre, il y a cette dimension de performance, de performance presque athlétique, et puis aussi de technicité, évidemment, d'apprentissage du jeu d'acteur. On imagine bien qu'on ne s'improvise pas. Et alors, au cinéma, c'est moins clair pour moi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois... d'abord, il y a des acteurs de cinéma qui ont une formation de comédien, dont on reconnaît, etc. C'est tout à fait important, là. Mais il y a aussi, au cinéma, et je pense que c'est plus rare au théâtre, des gens qui, tout d'un coup, arrivent sans formation véritablement de comédien et qui vont immédiatement imprimer, justement, la pellicule. Et donc, comment ça se joue, ça, entre le théâtre et le cinéma, la question, oui, de la technicité du jeu d'acteur dans le succès ?
On peut sans doute faire une carrière magnifique au cinéma parce que on a été choisi en étant absolument le personnage, même si c'est d'autres mots, un autre métier, mais on convient sans doute absolument à ce que la réalisatrice, le réalisateur attend, rêve du personnage. Donc là, il peut y avoir un effet où on ne sait pas si la personne joue ou si elle ne joue pas. À partir du moment où il faut commencer à construire, se déplacer, réagir à une indication, là, on arrive dans des choses qui sont tout simplement un peu plus techniques. La différence pour moi la plus flagrante... C'est ce pourquoi d'ailleurs les acteurs de théâtre font du cinéma quand ils en ont la chance, et quelquefois les acteurs de cinéma n'osent pas venir au théâtre, que c'est pas forcément un aller-retour, c'est que la caméra est proche, le HF est planqué dans le col, donc on peut jouer dans une proximité très grande, donc on a un peu l'impression d'être près de sa nature, près de son cœur, près de son évocation. Si vous jouez à la cour d'honneur sans micro, vous êtes censé dire les mêmes phrases, mais qu'elles soient entendues par 2000 personnes potentiellement dans le Mistral. Donc là, c'est sûr que l'effet de profération, il peut être tétanisant. Parce qu'on le sait tous, hein, quand on fait nous ce qu'on appelle des italiennes, on vérifie la mémoire du texte. De temps en temps, on est chez nous, on se trouve formidable. Et à partir du moment où tout d'un coup, il faut parler, mâcher les choses, d'une certaine manière, rentrer dans un effet qui n'est pas naturaliste, parce qu'il faut que tout soit entendu, il faut tendre la fin de la phrase, il faut penser au paradis, au creux acoustique, etc. Le fait que sa vérité à soi, il faut la mettre devant, ça c'est une technique. En tout cas, il faut l'éprouver. Si on le découvre au moment où il y a du monde, c'est compliqué. J'ai un souvenir, moi, très, très marquant, mais très douloureux en même temps. J'ai eu tellement de chance. Je suis rentré à la Comédie Française dans le Don Juan de Jacques Lassalle, de Molière, mise en scène par Jacques Lassalle, à la Cour d'honneur. Et j'avais 6 mois de conservatoire dans les pieds, et avant, j'étais à l'école Florent. Et à l'école Florent, moi, j'avais travaillé ma vérité, j'allais dire, à la couleur de la moquette sur les murs, dans le studio, tout petit, quoi. Et là, ça allait. Et tout d'un coup, cours d'honneur. Et en fait, je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire. Et je me souviens, j'étais dans un petit studio, et le soir, je pleurais de rage, parce que je comprenais, mais ça n'arrivait pas. C'est-à-dire, je montais dans les gradins, j'avais un costume comme ça, magnifique, mais rien n'était naturel. Pour ramasser son épée, il fallait se mettre à genoux, parce qu'on ne pouvait pas faire comme ça, parce que c'était plastronné. Tout était... Et j'avais l'impression que j'étais déguisé en Playmobil, et que je ne pouvais pas jouer comme un Playmobil. C'était pas possible de trouver la vérité de ça. Je montais dans les gradins, et je me disais, mais évidemment qu'il faut faire ça. Parce que dans les gradins, mais le plaisir, c'est de savoir qui arrive sur le plateau. Et cette silhouette qui était donnée, elle était juste, il fallait que je l'épouse. Mais je n'avais pas les moyens. Donc en fait, je comprenais au 20e rang, et dès que je redescendais, que j'arrivais au plateau, je perdais cette compréhension-là. Je l'ai gagnée petit à petit. Mais je me souviens de cet effet douloureux, parce que j'ai un effet d'accordéon tellement subi, tout d'un coup, tellement rapide, que je me dis, oui, c'est ça le théâtre. Et en plus, je me souviens très bien, Jacques Lassalle aimait beaucoup cette scène, alors, du jeune Don Carlos et Don Juan dans la forêt, il est sauvé par celui qui recherche, il ne le reconnaît pas, et ensuite il est bien embêté, etc. Et il me disait, mais c'est comme un film de John Ford avec le vieux cow-boy et le jeune cow-boy au bord du feu. Et je dis, ok, alors quand tu es à la cour d'honneur, t'es, elle est bonne des saucisses! C'est impossible de travailler petit au cinéma, c'est très facile, la caméra s'approche, enfin c'est très facile, non, mais la caméra s'approche, il y a quelqu'un qui est là pour repousser la fumée dans le bon sens, qu'on ne l'ait pas, etc. Et là, ben, je ne savais pas comment faire. Donc la différence pour moi, elle est celle-ci, c'est pour ça d'ailleurs que de temps en temps, je remarque ça, les rapports de fascination, comme ça, du cinéma, du théâtre, je le remarque d'autant mieux que je suis à la Comédie Française et que le statut de la Comédie Française oblige les productions à marquer de la Comédie Française. C'est-à-dire, si vous êtes sociétaire de la Comédie Française, il faut le mettre au générique, si vous êtes pensionnaire, on met de la Comédie Française, et c'est une chose qu'on rappelle aux agents, et j'ai connu des époques où les agents, les productions répondaient, excusez-moi, c'est pas un film en noir et blanc, RTF. Ce cachet-là, voilà, ça ne nous intéresse pas. Et puis il y a d'autres moments où tout d'un coup, l'acteur de théâtre, quand je dis Comédie Française, ça concerne tous les acteurs de théâtre, deviennent tout d'un coup plus désirables. Des fois parce que oui... ils savent leur texte, ils arrivent à l'heure, etc. Et puis aussi, réagir à une indication, c'est une chose qu'on apprend au théâtre. On apprend immédiatement à essayer, à changer absolument la couleur de la voix, la dynamique de la phrase, etc. Et que si vous prenez un jeune homme qui a été pris comme ça, parce qu'il est tel personnage, et que si vous lui demandez de changer sa vérité à lui, il n'en a qu'une, et qu'il n'a pas appris à construire les autres. Donc c'est sans doute dans cette... c'est là que se situe pour moi la différence.
En fait, ça s'apprend quand même aussi sur place. Tout ça s'apprend quand même aussi,
oui,
majoritairement sur place. C'est-à-dire que tu parles de la cour d'honneur. Moi, je me souviens un jour au cours Florent où je donnais un cours, et à l'époque, il n'y avait pas les gradins dans la salle, l'immense salle. Donc, il y avait quelqu'un sur scène et je lui dis bon, on va faire une expérience. Donc, il jouait très très bien. Je dis, je me recule de 10 mètres, je commence à plus bien t'entendre. Je recule, pareil, je t'entends encore moins. J'ouvre les portes, je ne t'entends plus. J'ouvre les portes du porche de la rue. Je ne t'entends pas. Et je suis allée jusqu'à la cité derrière, tu vois, où étaient les
côté du trottoir.
C'était dangereux, il y avait eu des morts. Je suis allée dans la cité tout au fond et j'ai dit « Vas-y !» Et là, on l'entendait. Et je pense que, en fait, ça ne peut que s'éprouver. C'est en fait, moi je pense qu'il n'y a pas de différence entre le théâtre et le cinéma. Il n'y a pas de différence. Non, mais... Vous recherchez la vérité par les écrits, par vos recherches, vous cherchez la vérité. Nous, on cherche le vrai. On nous donne du papier avec il y a des mots dessus, et ça doit devenir quelqu'un qui a une chair, qui respire, qui se décourage, qui pense, quelqu'un de chair et de sang. Donc nous, on doit trouver le vrai de ça, de ces mots qui n'existent pas, enfin qui ne sont pas quelqu'un, qui vont devenir quelqu'un à travers nous. On est un média, en fait, hein. On est un vecteur de vrai. Après, pour faire passer le vrai au cinéma, ou passer le vrai au théâtre, dans une petite salle, dans une grande salle, dans la cour d'honneur, c'est des techniques d'évaluation, c'est du changement de fréquence de la voix, sinon les gens s'endorment. Et au cinéma, et surtout qu'au théâtre, L'acteur, il est le relais de la mise en scène. C'est-à-dire que des choses ont été organisées pour que tout ce qui est écrit et dit doit être entendu. Mmh. Entendu dans tous les sens du terme, c'est-à-dire ressenti, compris, éprouvé aussi par le public. On nous a dit de nous mettre là parce que c'est la meilleure place pour que ça soit entendu et dit, mais il n'empêche qu'on ait le relais de la mise en scène pour apporter cette parole-là. C'est un art qui s'apprend quand même essentiellement, moi je trouve, sur place. Enfin, sur place. C'est de la pratique, c'est empirique. C'est au fur et à mesure, on comprend que. Enfin, moi, j'ai toujours eu un problème à l'enseigner ça, parce que je sais que quelqu'un qui est sur une scène et qui va entendre plus fort, pour toujours, on va l'entendre. Donc, en revanche, ceux qui pensent que seule la technique, c'est pas quand même tout à fait la même chose que l'art lyrique ou d'autres arts du spectacle où une technique très sûre permet d'accéder à ça, enfin, à transmettre. Je pense quand même au théâtre, on est responsable de notre ressenti. Et ce ressenti, il peut s'apprendre avec des techniques, c'est sûr. Mais au final, on doit avoir intégré ce qu'on a appris comme texte, qui est donc la pensée du personnage ou ses élans, ou son envie d'interroger son partenaire. Enfin, c'est un dialogue, en fait. C'est quelque chose qui passe par l'intérieur, là, et qui s'adresse. Et puis, tout le reste, la charge qu'on a d'être le relais du metteur en scène, la charge qu'on a d'être entendu, la charge qu'on a de tout ça. Et c'est vrai que de ça, on est déresponsabilisé au cinéma. Parce que, au contraire, au cinéma, on doit avoir très confiance au metteur en scène parce qu'il fera ce qu'il veut de nous
au montage. Il y a une chose aussi, Monsieur Lilti, vous parliez du fait que, ben oui, la réputation, la célébrité, etc., il y a toute une part qu'on n'arrive pas à expliquer. Ça me fait penser à une autre chose inexplicable, c'est pourquoi on est acteur. C'est pas simple, vous posez à n'importe quel acteur pourquoi t'es devenu acteur, ça répond à quoi. Chacun aura une réponse différente et on sent à chaque fois qu'on n'est pas tout à fait, on sait pas. Un des paradoxes, par exemple, c'est qu'il y a une grosse proportion des acteurs qui sont de grands timides. C'est le grand timide qui, tous les soirs, va se présenter en lumière devant 870 personnes. Ça peut paraître pas la manière, c'est peut-être une bonne manière de la guérir, de cette timidité-là, mais ça n'a pas l'air aussi simple que ça. Donc, j'ai l'impression que ce qui est de la nécessité d'être en lumière, de l'accepter, d'y rentrer, que ça soit une injonction, une résistance familiale, je ne sais pas, c'est toujours compliqué. Il y a plein de typologies d'acteurs comme ça, il y a quelques grandes familles, mais j'ai toujours l'impression que ça détermine énormément de choses. Peut-être qu'il y a une part qui détermine la capacité à avoir cette célébrité, à l'épouser, à la créer parce qu'on en a soif et que cette soif-là guérit, met un baume sur quelque chose qui est d'une fracture d'enfance, j'en sais rien, mais c'est ce qui fait que moi, par exemple, je m'interroge pour moi sur une chose, c'est que je ne dis pas que je rentre sur un plateau en disant Yukaidi, Yukaida, mais moi, j'ai un trac totalement intermittent, mais je n'ai pas le trac parce qu'il y a du monde. De temps en temps, je suis là, je trouve ça super, tout va bien. Puis de temps en temps, je suis saisi de trac. Alors, la seule métaphore que j'ai trouvée, c'est comme si le public était un bain dont je ne connais pas la température. Et que je dois rentrer dedans. Et des fois, je fais... Waouh ! Et d'autres fois, je me dis, oh, putain, mais ils sont gelés, qu'est-ce qui se passe? Et que, mais comme je joue, je dois faire, il n'y a aucun problème. Voilà. C'est tout ce truc-là. Mais le public ne dérange pas. Je n'ai pas l'impression que le public va deviner en moi quelque chose. Tandis que l'œil de la caméra me tétanise. Enfin, me tétanise, ça va, je n'arrive pas à le maîtriser, mais c'est... alors que pourtant, au cinéma, tout est protégé. Et puis, on peut faire des prises. On peut bafouiller, se planter, pas savoir son texte, n'avoir rien compris à la prise, etc. On en fait d'autres, voilà. Et puis, tout le monde est là pour créer une crèche qui, sur le papier, est moins impressionnante qu'une audience, une jauge de théâtre avec plus de monde. Et il y a quelque chose, sans doute, dans mon enfance, dans ma définition, qui fait que je n'ai pas peur du grand nombre, mais j'ai peur de cette obscura caméra, là, cet œil noir, comme si lui allait déceler des choses que je ne veux pas montrer. Voilà. Et que donc, ce qui fait que je ne me sens pas libre au cinéma, sans doute parce que je suis un peu dans une apnée ou un petit peu sous les feux d'un examen, et avec la même impression que si on m'interrogeait d'une façon policière. Et que j'ai. Donc, de temps en temps, je mime mon calme, mais qui est tout à fait faux. Et je me suis toujours demandé qu'est-ce qui définit cette chose-là. Et c'est peut-être quand on n'arrive pas à définir la différence acteur-comédien. Ou quand je vous dis, ben pour certains, ça ne pose aucun problème. C'est pas une question de technique. Benjamin Laverne, par exemple, il joue au cinéma exactement comme il joue au théâtre, avec la même clarté. J'ai vu ce jeune homme arriver à la Comédie Française. J'étais pas administrateur et j'étais fasciné que quelqu'un d'aussi jeune, il sortait à peine du conservatoire, ait une telle technique, presque à l'ancienne. Voilà. Et ensuite, je l'ai vu au cinéma, et en fait, au cinéma, il ne fait pas semblant de savoir bafouiller, en balançant des choses comme ça. C'est exactement la même facture, et il fait la carrière qu'on lui connaît. Donc c'est sans doute pas cette différence-là. Il y a sans doute quelque chose qui ne dérange pas, qui ne fait pas différence, et pour d'autres personnes, ça fait différence. Et c'est aussi obscur que ces histoires de réputation, sur tant de minutes consacrées à une non-réponse, mais... Mais oui, il y a quelque chose d'obscur là-dedans.
En plus, je pense qu'on va approcher peut-être bientôt de la fin, mais vous évoquez peut-être, parce que c'était la question que j'allais poser, en fait, vous venez d'évoquer cette question du public, justement, non pas du public, de la réputation de la société, mais du public comme de l'audience oui. Présent dans la salle. Moi, c'est une question justement que je voulais vous poser, c'est que comment est-ce que vous le ressentez physiquement et comment est-ce que ça interagit avec votre jeu d'actrice ou d'acteur au théâtre, parce que le théâtre, le public du théâtre aujourd'hui, il est dans le noir, vous le voyez pas ou très peu, il est silencieux, il est calme, tout saute un peu avant que ça commence, mais il fait attention. Alors qu'au XVIIIe siècle, justement, je sais bien, le public d'abord s'est éclairé, c'est un peu comme ce soir, la salle est éclairée, le spectacle est dans la salle, le public intervient, il est bruyant, il y a le parterre, les gens sont debout. Il y a des fois, au début du siècle, il y a même des gens sur la scène. Les gens sont debout, les gens crient, les gens interrompent les acteurs quand ils sont pas bons, quand ils leur plaisent pas, ou quand ils leur plaisent, ils les interrompent pour leur faire rejouer la scène qu'ils ont aimée. Ah oui, au début du siècle, on peut faire rejouer une tirade qui plaît beaucoup, on peut faire rejouer plusieurs fois le comédien. On peut au contraire demander un autre comédien pour jouer le même rôle, etc. Donc il y a une interaction, souvent, il y a des scènes, etc. Alors aujourd'hui, ça a disparu. D'abord, est-ce que vous le regrettez? Est-ce que vous aimeriez des fois que les publics soient un peu plus actifs, vivants, qu'il y ait des moments d'improvisation dans le jeu? Ça existe parfois, mais c'est marginal. Et sinon, qu'est-ce que... Ce public silencieux, dans le noir, qui vous regarde, comment vous ressentez et quels effets ça a sur le jeu d'acteur ou d'actrice d'avoir cette présence de ce public presque invisible et silencieux?
Ah ben c'est d'une importance dingue. Donc en fait, quand vous dites ça a disparu, non. Je ne suis pas sûr d'être nostalgique de l'ensemble des propositions, des souvenirs que vous faites. Voilà, mais oui, effectivement, le public s'est beaucoup plus policé, mais non seulement, ça fait quand même quelques années qu'on voit de moins en moins de rideaux, que la tentative de casser le quatrième mur, de parler de plein pied, d'égal à égal, est là de plus en plus, qui est une manière de retrouver ce contact. Et puis, quand même, le public fait un bruit. même s'il a une qualité silencieuse, je dis toujours que nous, on fait la différence entre tous les silences. Quand vous êtes sur le plateau, vous ne vous méprenez absolument pas entre un silence navré qui attend la fin et celui qui est en train de creuser une écoute. Ça ne fait pas du tout le même non-son.
On connaît ça ici aussi. Hein.
Et au théâtre, c'est pour ça qu'on adore aussi les spectacles pour enfants. Un rire d'enfant sur un Molière, c'est exceptionnel. C'est pour ça aussi que, je crois l'avoir déjà dit, mais il fut un temps malheureux où les rectorats empêchaient, après les attentats, les élèves de se déplacer pour venir au théâtre. Et donc, économiquement, c'était formidable pour nous parce qu'on revendait toutes ces places beaucoup plus chères. Mais toute la troupe est venue en disant « ils sont où ?» Parce que la caisse de résonance, justement, de jeunes gens qui n'ont pas encore tous les codes ou n'ont pas déjà vu ce titre quatre fois, réagissent. Et ce qui fait que, de temps en temps, on commence en se disant « ouh, ça va pas être facile ». Et puis, quand tout d'un coup, on a l'écoute, on a l'impression d'avoir maîtrisé quelque chose. Donc j'ai toujours le sentiment au théâtre d'être sur une monture et que le rapport entre le public et la scène est une sorte de monture qui cabre, qui se calme, qui bouge, qui caracole. Et ça se sent. Ce qui fait d'ailleurs l'entièreté de l'exception du Hicketnung, parce que nous on change, mais on change parce qu'il y a le public. Et le public change parce qu'on le fait autrement aussi, c'est un aller-retour constant, et c'est pour moi une différence par rapport au cinéma. Parce qu'au cinéma, ça ne fait pas de bruit. Ça ne fait pas de bruit. Au contraire, on fait tout pour qu'il n'y ait pas de bruit. On met des cônes partout, dans tout le quartier, pour qu'il n'y ait aucun... On arrête tout quand il y a un avion. Donc on travaille dans un silence qui, moi, m'impressionne tout d'un coup, parce que je n'arrive pas à savoir si la scène est bonne ou pas. Parce que tout le monde est au combo, personne ne fait de bruit. Quand il y a un ventre qui grouille, ça fait marrer tout le monde en se disant « c'est bientôt le moment de la cantine, il va falloir arrêter ». Parce qu'on entend même ça tellement il y a un silence que je trouve moins pesant, alors que le non-silence du théâtre est une matière absolue. Donc on ne peut pas dire que ça n'est plus le cas. Ça existe absolument.
Vous avez la même expérience ? Pas pour le ventre qui brouille.
Non, mais si c'est que ça, hein, franchement, il y a des pastilles. Ça y est, on a levé le secret. Non. J'avais une question, mais...
Peut-être le mot de la fin. Oh dépasser le temps.
Ah mais oui.
Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Ça. Il manque beaucoup de choses. Il manque tout. Oh, mince.
Il y a des applaudissements qui partaient. C'est toujours un signe de...
Le mot de la fin.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.